Alors bonjour à tous. Donc quelqu'un est parti et quelqu'un reprend la place pendant les vacances. Seb est étudiant. Il a passé toute la nuit à faire des fiches de son cours de droit. Le lendemain, il se lève encore tôt pour réviser, dans les 6 heures du mat, parce qu'il est courageux. Et en ouvrant son ordinateur, il se rend compte qu'il n'avait pas enregistré ce qu'il avait fiché, qu'il n'avait pas fait CTRL S. Toute une soirée de perdu. Jeanne est animatrice dans un camp. Une année, elle discute tous les jours avec un jeune qui semble se rapprocher de Dieu. L'année suivante, elle revoit le jeune en question. Mais il a mal tourné. Il n'a pas suivi ses engagements et est retourné à une vie sans Dieu. Toutes ces discussions pour rien. Paul est retraité. Un jour, il passe toute une après-midi à enlever les mauvaises herbes sur les marches qui mènent à son jardin. Il sent une douleur dans son dos, donc il décide de faire une petite pause. Pendant une semaine, il ne fait rien. Il revient la semaine suivante pour découvrir que toutes les mauvaises herbes ont de nouveau envahi les marches. Tout ce travail pour rien. Et je pense que chacun d'entre nous en a des histoires similaires, d'efforts qu'on a fournis pour, au final, pas beaucoup de résultats. Des histoires qui nous poussent au découragement, à tout laisser tomber, à tout abandonner et à partir. Élie, le grand prophète qu'on connaît tous, a eu un moment comme ça dans son histoire. Et comme le dit Jacques dans son épître, Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Et c'est dans les chapitres 17 à 19 du livre des Rois qu'on nous parle d'Élie, ce prophète qui nous ressemble. Et dans les chapitres qui précèdent le texte qu'on a vu, chapitres 17 à 18, on a un premier portrait robot de ce prophète. Alors tout d'abord, il est puissant et impressionnant. C'est quelqu'un qui, à travers lui, Dieu opère des miracles. Durant sa fuite devant le roi d'Israël, Achab, il est nourri miraculeusement par des corbeaux près d'un ruisseau. Et aussi, il est nourri chez une veuve à Sarepta, où la jarre d'huile et le petit pot de farine ne s'épuisent jamais. Dieu agit puissamment à travers Élie. Deuxième chose, c'est un prophète solitaire, de jugement. Il apporte le jugement de manière violente et décisive. Par exemple, en supprimant 450 prophètes de Baal, à lui tout seul, lors d'une confrontation au chapitre 18. C'est un prophète avec un sacré tempérament. Le chapitre 17 au verset 1 nous le montre, parce que Élie annonce une sécheresse qui va s'abattre sur le pays. Et il dit: Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Élie est animé par un zèle pour Dieu, mais il a aussi conscience du rôle qu'il joue. Et donc, avec ça en tête, on revient à notre texte du chapitre 19. Et c'est un passage particulier parce que, vu le portrait robot et vu ce qui s'est passé juste avant, c'est-à-dire qu'il a confronté 450 prophètes de Baal et il les a vaincus, eh ben on passe d'un extrême à l'autre. Parce que on le sentait invincible après cette grande victoire, et là, tout d'un coup, il prend peur à cause des menaces de mort d'une femme. Jézabel. Ça semble être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Élie se rend compte, pendant tout ce temps, il parlait avec Achab, le roi d'Israël, etc. Il se rend compte que c'est Jézabel, en fait, qui mène la barque. Et elle, comme on l'a vu dans le passage, elle continue à jurer par ses dieux, au verset 2, que les dieux me punissent très sévèrement, etc., etc. Et cette attaque de Jézabel envers Élie, il l'aperçoit comme une attaque vraiment personnelle contre tout son travail, son ministère, son appel. Son appel qui était de rétablir le culte de Dieu, le vrai culte en Israël. Et cette attaque montre qu'il y a une faille, il y a un petit grain de sel dans le plan d'Élie pour rétablir le vrai culte en Israël. Quand Élie regarde autour de lui, il voit que rien n'a bougé en fait. et que les circonstances sont trop défavorables. Il décide donc de tout abandonner. Il laisse son serviteur et il va à Beersheba, à l'extrémité sud de Juda. Donc en fait, il quitte vraiment le territoire du peuple de Dieu, en fait, du territoire d'Israël, pour se diriger vers le désert. Et aussi, dans cette première partie, on remarque que Dieu n'est pas présent, en fait. Il n'y a aucune mention de Dieu. Et donc, on voit que Élie se coupe vraiment géographiquement et mentalement de Dieu. Il réagit instinctivement, avec les tripes, comme un humain. Je laisse tomber, je pars. Dieu est tout-puissant. Il l'a déjà montré dans la vie d'Élie, avec tous ses miracles, et il l'a déjà montré dans nos vies. Il nous a arrachés à la mort, comme l'a rappelé Matthieu. Il a fait de nous ses enfants. Il a répondu à certaines de nos prières. Il nous a protégés. Cela devrait nous encourager dans les moments de découragement. Mais dans ces moments, la réaction d'Élie peut être la nôtre. Même si Dieu m'a appelé à le suivre, les conditions ne me plaisent pas ou m'effrayent. Si c'est comme ça, eh ben je m'en vais. Peut-être vous avez déjà entendu cette phrase. Peut-être vous avez envie de la dire. Peut-être vous avez envie de vous enfoncer dans un désert, coupé de tout, coupé de Dieu. Après un jour de marche, on peut imaginer Élie abattu, peut-être un peu en colère aussi. Ah, ça m'énerve vraiment tout ça, tout ce que je fais, ça sert à rien, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. C'est ce qu'il dit au verset 4. Le résultat n'était pas celui attendu. Il voulait réformer, il voulait en finir avec l'idole Baal. Et là, la situation n'a pas bougé. C'est comme avant. C'était même mieux avant. On ne vaut pas mieux que ceux qui nous ont précédés. Une phrase qu'on peut entendre, hein, c'était mieux avant. Parfois, l'orgueil nous fait que on se focalise surtout sur les résultats, l'efficacité de notre action. On veut voir les fruits tout de suite, devant nous. Et quand le résultat n'est pas là, on se replie un peu sur soi, sur son nombril, sur ses problèmes, sous son arbre, comme Élie. Et le problème d'Élie dans cette fuite, c'est qu'il s'est coupé de ce qui faisait sa force, de celui qui l'a appelé, de celui qui lui a permis de survivre miraculeusement durant la sécheresse. Et Élie était habitué à la présence de Dieu. Dieu l'avait accompagné pendant tout son ministère. Mais là, dans ce passage, Dieu paraît absent. Tout ce dont Élie se rappelle, c'est sa mission, sa carrière, ce qu'il a accompli lui. Quand notre plan de carrière ne fonctionne pas, quand nos objectifs qu'on s'était fixés pendant l'année, peut-être au niveau alimentaire ou du sport, etc., quand on n'atteint pas ses objectifs, ça nous fait mal, ça nous frustre. On en vient à douter de nos capacités, de notre utilité même. Et on se retrouve vite à sec, dans le désert. Mais où est-ce qu'on puise notre force? Est-ce que c'est de nous-mêmes, de nos plans bien organisés, ou de quelqu'un d'autre, du créateur de la vie, par exemple? Parce que sous le genêt, où est Élie, il y a quelque chose qui se passe. Élie crie à Dieu. Et on a chanté aussi ce chant, « Je veux crier à toi ». Il crie vers celui qui veille depuis le début sur lui. Et Dieu répond, encore une fois. Et sous le genêt, Dieu vient rencontrer Élie, et il le fait par l'intermédiaire d'un messager, et il le fait d'une manière douce. Il le touche. Il le touche à deux reprises. Le messager revient deux fois et le touche à deux reprises. Dieu n'abandonne pas son prophète dans le désert. Il le nourrit et il le guide même. Et par ses miracles, Dieu rappelle à Élie tout ce qu'il a fait pour lui. Il a toujours pris soin d'Élie, comme au chapitre précédent. Et Dieu nourrit Élie parce que le prophète a une longue route à faire. Il doit aller plus loin avec Dieu. Et Dieu suggère à Élie d'aller au mont Horeb, la fameuse montagne de Dieu. Quand nous sommes seuls, Dieu est là. Quand nous nous isolons, eh ben Dieu nous retrouve. Quand on fuit, Dieu nous accompagne. Quand on semble sans ressources, pour Dieu, tout est possible. Et dans l'apparente absence, Dieu est présent. Et par sa présence, il nous rappelle qu'il est bon, avec douceur, en nous touchant. Il nous mène à travers le désert pour mieux comprendre qu'il est fidèle. Et il nous appelle à aller à lui, vers la montagne de sa présence. Montagne Horeb, la montagne Horeb, elle est aussi connue sous le nom de Sinaï. C'est la montagne de Dieu. Et c'est la montagne où des choses se sont passées dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est là où Dieu a conclu une alliance avec eux. Il leur a dit, tu seras mon peuple, je serai ton Dieu. On peut voir dans le chapitre 25 d'Exode. Et ici, Dieu pose une question à Élie. Que viens-tu faire ici? Et il lui pose la question deux fois même. Et cette question, enfin, il y a un peu deux flèches à cette question. D'abord, il semble que Dieu fait un reproche à Élie. Pourquoi tu as fui, Élie? J'étais avec toi et tu es parti. Et même quand tu es parti, ben, j'étais encore avec toi. Ensuite, Dieu veut une réponse de la part d'Élie en posant cette question. Qu'est-ce que tu veux maintenant, Élie? Dieu laisse la porte ouverte au dialogue avec Élie. Et je pense que Dieu nous pose cette question à nous, à des moments clés de notre existence. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Et c'est une question primordiale parce qu'on doit se positionner. Et c'est comme Jésus qui pose la question à un aveugle du nom de Bartimée en Marc 10, 51. Qu'est-ce que tu veux? Et pourtant, Jésus le voit, il est aveugle, il est mendiant. Pourtant, il lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux? Mon maître, que je retrouve la vue, lui répond l'aveugle. Et c'est à nous aussi de répondre à cette question. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je veux la mener les yeux grands ouverts avec Dieu ou continuer à être aveugle et tâtonner dans le noir? Et cette question que Dieu nous pose nous pousse aussi à admettre nos faiblesses, nos sentiments aussi. Cette question nous pousse à nous ouvrir envers Dieu, nous ouvrir à Dieu, à avoir une relation encore plus honnête avec lui, ou tout simplement à commencer une relation avec lui. Dieu nous demande à chacun d'entre nous, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et Élie répond à Dieu, et il se plaint à deux reprises. Il explique que son zèle a été inutile, qu'Israël a abandonné l'alliance avec Dieu. Élie est le dernier des Mohicans. Il a le sentiment d'être seul contre tous. Je suis le seul qui s'occupe de tout ici. Il n'y en a pas un que ça dérange? Dans sa plainte, le prophète Élie exagère, il généralise, il voit tout en noir, parce que la vérité est autre. Il a agi mieux que ses ancêtres, et il n'est pas le seul homme de Dieu restant. Il y a des prophètes de Dieu qui ont été cachés par l'intendant du roi, on le voit un chapitre précédent. Élie a besoin de retrouver une juste perspective sur les choses, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, d'aller sur la montagne. Il a besoin de trouver un endroit calme où reprendre son souffle et ses esprits. Un endroit entre l'abaissement exagéré, je ne vaux rien, mes ancêtres sont mieux que moi, et une autoflatterie exagérée, je suis le seul à tout faire. Un juste milieu, il faut trouver la voie médiane. Dieu lui répond alors, sors et tiens-toi sur la montagne. Et là, on a le célèbre passage que beaucoup de gens connaissent, avec le vent, le tremblement de terre et le feu. Ce sont des choses spectaculaires. Et dans les chapitres précédents, Dieu s'est manifesté de cette manière. Par exemple, il a envoyé son feu sur l'autel pendant la confrontation entre les prophètes de Baal et Élie. Mais là, c'est différent. Il y a un bruissement doux et léger. Et littéralement, c'est un léger son de silence. Dans le silence, un bruit qui se fait entendre. Mais c'est contradictoire. Comment est-ce qu'on peut avoir une combinaison de bruit et de silence en même temps ? Eh bien, c'est comme ça que Dieu se manifeste à Élie à ce moment-là. Dans l'absence, la présence de Dieu se fait sentir. Dieu montre qu'il a été présent avec Élie, non seulement dans le vent, le tremblement de terre et le feu comme avant, mais aussi dans la petite brise légère, dans son apparente absence. Et Dieu ne parle pas qu'à travers des phénomènes spectaculaires dans nos vies. Il est là, toujours, dans une communication silencieuse, parfois avec nous. Une simple présence rassurante, un amour calme, un repos. Dieu s'adresse finalement à Élie de manière claire. « Va !» au verset 15. Il lui donne une nouvelle mission, de retourner sur ses pas et de trouver des successeurs à son entreprise. Élie voulait abandonner sa mission, mais ses doutes, ses peurs sont éliminés par un ordre direct de Dieu. « Allez, c'est parti, au boulot !» La montagne de choses à faire dans nos vies peut nous effrayer. Les choses n'avancent pas, n'évoluent pas. C'est comme une maison où les travaux ne cessent de traîner en longueur. Et la déprime nous gagne, le stress nous paralyse. On remet ça à plus tard, on évite, et le malaise grandit, la plainte grandit. Et je me souviens, mon père me dit souvent pour me rassurer, la meilleure façon de ne plus stresser par rapport à quelque chose qu'on a à faire, eh ben, c'est de commencer cette chose. Commençons par descendre de la montagne. Et le rôle maintenant d'Élie est clair. Il lui faut laisser la place à d'autres qui continueront le combat à sa place. Élisée, par exemple. Il n'est pas le seul. Cette mission que Dieu lui a confiée ne dépend pas de son succès personnel. Tout ne repose pas sur ses épaules. La cause de Dieu a encore un futur, même sans Élie. Je ne suis pas le centre de l'univers. Dieu continue son œuvre après moi, avec d'autres. Et on doit se satisfaire de faire partie du plan et de ne pas être le plan en lui-même. On est entouré de gens avec plein de dons, de capacités, de qualités. Et parfois, elles sont inexprimées parce qu'on prend toute la place. L'union fait la force, comme on dit en Belgique. L'Église, le groupe de croyants, fait la force. Dans ce passage, Élie a été amené à goûter à la présence de Dieu sur la montagne, à se tenir devant Dieu. Mais il est appelé aussi à revenir dans le monde après. Sa nouvelle mission le fera intervenir directement dans la politique de deux États. Il lui est demandé de désigner des successeurs qui mettront fin à la dynastie d'Omri. C'est le père du roi Akab. Et cette dynastie œuvrait pour le mal. Après nos moments dans le désert, après avoir regoûté à la source sur la montagne, eh ben il est temps de revenir dans le monde pour avoir un impact, pour partager ça à d'autres. Nous avons goûté à la présence de Dieu. C'est trop beau pour qu'on garde ça pour nous. Comment allons-nous ramener ça dans le monde ? De quelle manière allons-nous changer ce qui nous entoure ? Dieu montre à Élie qu'il reste maître de l'histoire. Dieu maîtrise la situation, même si nous sentons que nous ne la maîtrisons pas, comme Élie. Dieu maîtrise le mal alors que nous voyons autour de nous encore des dynasties qui œuvrent pour le mal. Des gens qui sont menés par des idoles. Dieu maîtrise le mal alors que nous voyons l'inefficacité de notre lutte contre le mal et tout le travail qui reste à faire autour de nous, mais aussi en nous. Quand on se dit « tout ça pour ça », eh bien Dieu dit « je m'occupe de ça ». Quand on se dit « tout cet effort alors que le mal gagne autour de moi et en moi », il dit « je suis vainqueur ». Et Dieu est vainqueur parce qu'il a offert une solution radicale au mal, sans nous, mais pour nous. Une solution impensable du point de vue humain. Dieu s'est fait homme et est mort pour nous. Il est venu passer du temps avec nous sur cette terre pour qu'on puisse profiter de sa présence. Et il s'est donné lui-même à la croix pour que nous soyons pour toujours dans sa présence. Amen.